Le genre des miroirs des princes dans l'histoire des idées politiques occupe une place quelque peu marginale. Il traite en effet d'un thème, les vertus du bon prince, qui relève davantage de l'exhortation morale ou de la prédication religieuse que de la théorie politique. Si son origine remonte à l'Antiquité, il apparaît essentiellement comme un genre médiéval, renouvelé, certes, par l'éthique humaniste du Quattrocento, mais remis en cause dans sa substance même par les conditions nouvelles de la vie politique. Plus précisément encore, il serait tombé en discrédit avec Machiavel, qui, faisant voler en éclats le cadre de l'éthique gouvernementale traditionnelle, aurait déplacé d'un coup la virtu du prince sur le terrain de la force et du calcul. Même si l'historiographie récente s'est attachée à mettre en relief certains liens de continuité entre le prince et les miroirs du prince humaniste, la rupture n'en resterait pas moins décisive et irréversible. Alors c'est la nature de cette rupture que je voudrais examiner aujourd'hui en mettant en question son évidence supposée pour mieux en cerner les modalités et les limites. Quelques brefs rappels tout d'abord pour retracer schématiquement l'histoire du genre. Un genre donc qui remonte à l'Antiquité, où il est illustré notamment en Grèce par le discours à Nicoclès d'Isocrate, 4e siècle avant Jésus-Christ, et à Rome par le fameux traité de Sénèque sur la clémence, le De Clemencia, adressé au jeune Néron au début du 1er siècle après Jésus-Christ. Ce genre connut un essor considérable au Moyen-Âge, à partir de l'époque carolingienne. Parmi ses représentants les plus célèbres, quelques livres du Polycraticus de Jean Salisbury, au XIIe siècle, le traité du royaume des Regno de saint Thomas, et surtout le monumental traité De Regimine Principum, du gouvernement des princes, de Gilles de Rome, à la fin du XIIIe siècle, qui constitue le modèle classique du genre et dont l'influence immense s'exerça jusqu'au XVIIe siècle. Cette littérature connut une nouvelle floraison importante au XVIe siècle, en France, en Espagne, en Italie, dans les pays de langue germanique, et le plus illustre de ces traités du prince de la Renaissance est alors sans doute l'Institutio Principis Christiani, l'institution du prince chrétien d'Erasme, paru en 1515, quelques années donc après la rédaction du prince de Machiavel. Alors, de quoi s'agit-il dans ces ouvrages de formes et de longueurs très diverses ? Leur objet n'est pas d'exposer une théorie du pouvoir politique, ni un plan général de société bien ordonnée, selon le modèle, par exemple, de la République platonicienne, mais, avant tout, d'instruire le prince des devoirs attachés à sa fonction. Que doit-il être, en tant qu'individu, en tant que personne privée, distincte de sa fonction publique ? Que doit-il savoir ? Comment doit-il se comporter ? Quels objectifs doit-il poursuivre pour bien gouverner son État ? Ce sont donc des écrits à finalité essentiellement pratique qui cherchent à définir les règles du bon gouvernement. Ces règles du bon gouvernement ne consistent pas dans des mécanismes juridiques de contrôle de l'action du prince, ni dans des techniques rationnelles axées sur l'efficacité. Elles sont avant tout de nature morale, dans un régime en effet où le pouvoir se concentre entre les mains d'un seul homme. C'est la vertu de celui-ci qui apparaît comme la condition nécessaire du bon gouvernement, c'est-à-dire d'un gouvernement orienté vers le bien commun, s'exerçant en vue du bien de tous et non à l'avantage privé de quelques-uns. Les miroirs du prince, par conséquent, appartiennent à une époque antérieure à la fameuse séparation de la politique et de la morale, dans laquelle nombre de commentateurs, depuis le début du XXe siècle, voient l'acte de naissance de la science politique. À ce titre, il participe encore de la recherche d'une norme idéale du bon gouvernement, puisque le prince, le bon prince, est celui qui s'efforce de ressembler au modèle de perfection que lui présente, comme en un miroir, ses manuels d'instruction. On peut y voir la preuve de leur manque foncier de réalisme, de leur inadaptation radicale à la vérité effective de la politique confrontée à la dure loi des rapports de force. On peut aussi s'interroger sur les raisons de la longue permanence, depuis l'Antiquité, d'une forme d'exhortation éthico-politique mettant l'accent sur le rapport essentiel entre le gouvernement de soi et le gouvernement des autres. Comme le dira encore Juste Lips dans ses Politiques au XVIe siècle, politique nourrie en partie de la lecture de Machiavel, Juste Lips citant Sénèque, « Si vous voulez assujettir toute chose à vous, soyez sujet à la raison, vous en gouvernerez beaucoup d'autres si la raison vous gouverne. » Peut-être y a-t-il là une vérité profonde de l'art de gouverner dont la signification va bien au-delà du simple problème des rapports entre morale et politique. Alors, cette littérature des miroirs des princes a fait l'objet de nombreuses études, depuis le livre fondamental de Wilhelm Berges sur les Fürstenspiegel, les miroirs des princes du Moyen-Âge, livre paru en 1938, jusqu'au, par exemple, au colloque Le prince au miroir de la littérature politique de l'Antiquité aux Lumières, publié l'an dernier aux presses de l'Université de Rouen. Plusieurs de ces études abordent de façon plus ou moins frontale la question des rapports entre le prince de Machiavel et la tradition des miroirs des princes. Dans quelle mesure le premier s'inscrit-il dans la continuité de cette tradition ou en rupture avec elle? Lui emprunte-t-il des thèmes, des images, des procédés rhétoriques? Et à quelle fin? En quoi sa démarche participe-t-elle de celle des auteurs de miroirs ou obéit-elle à une toute autre logique? Alors on peut schématiquement ramener les principales interprétations à trois grandes positions. Selon la première, la plus réductrice et la moins défendable, Machiavel n'aurait rien fait d'autre qu'ajouter un maillon supplémentaire à la longue chaîne des traités du bon gouvernement du prince. Et son livre, à ce titre, ne présenterait aucune originalité ni dans la pensée, ni dans le style. Cette thèse extrême, soutenue en 1938 par un certain Alan Gilbert, dans un livre paru aux USA sur le prince de Machiavel et ses précurseurs, a été vivement combattue et notamment par Ernst Cassirer dans son grand livre « Le mythe de l'État », paru en 1946, Cassirer qui lui oppose deux arguments. Premier argument, le témoignage de Machiavel lui-même, qui était convaincu de l'originalité de ses propres vues politiques, mais surtout le témoignage de ses lecteurs politiques de Richelieu à Napoléon Bonaparte, qui saluèrent avec enthousiasme la valeur exceptionnelle de l'ouvrage. Deuxième argument, la différence profonde qui sépare la problématique du prince et celle des traités traditionnels. Ceci, écrit Cassirer, étaient des traités pédagogiques. Ils étaient destinés à l'éducation des princes, Or, Machiavel n'aura ni l'espoir ni l'ambition de s'égaler à de telles œuvres. Son livre concernera des problèmes sensiblement différents. Il se contentera d'enseigner au prince comment conquérir le pouvoir et comment le conserver dans des circonstances difficiles. La deuxième position, plus nuancée, rigoureuse et méthodologiquement beaucoup plus rigoureuse, est celle que défend Félix Gilbert, à ne pas confondre avec le précédent Gilbert, Alan Gilbert. Il s'agit là de Félix Gilbert, un historien d'origine allemande, émigré aux États-Unis et qui fut au siècle dernier l'un des meilleurs spécialistes, sans doute, de l'histoire de la Renaissance, mais aussi de Machiavel. Gilbert, donc, dans un remarquable article de 1939, traduit en français très récemment, en avril 2004, simplement, dans les cahiers philosophiques. Cet article s'intitule « Le concept humaniste du prince et le prince de Machiavel ». À la différence de l'autre, Gilbert, Félix Gilbert ne confronte pas l'ouvrage de Machiavel à la tradition médiévale des miroirs des princes, dont rien n'assure que Machiavel ait jamais eu connaissance, mais à un corpus plus récent et plus proche de lui. Les multiples manuels du prince d'inspiration humaniste, écrits en Italie depuis la fin du XVe siècle, en réponse à la nouvelle situation politique des cités, situation caractérisée par le reflux de la vague républicaine démocratique qu'avait soulevé la lutte des cités contre l'Empire et par l'essor de gouvernements autocratiques. L'argumentation de Félix Gilbert se décompose en trois moments. Il met en évidence, tout d'abord, les éléments de continuité, mais aussi les aspects originaux de cette littérature humaniste par rapport à la tradition médiévale. Alors, éléments de continuité, c'est la recherche d'une norme idéale. La figure du roi juste et bon, entouré de sages conseillers, c'est une conception politique fondamentalement pacifique. Le roi a essentiellement pour tâche de veiller au respect de la justice et au maintien de la paix. Mais nouveauté également, et alors ces nouveautés, en quoi consistent-elles? Eh bien, dans l'effacement relatif de la motivation religieuse, au profit du désir de gloire, c'est en vue de la gloire que le prince doit s'efforcer, et non pas en vue des récompenses dans l'au-delà, que le prince doit s'efforcer d'être un bon prince. Une analyse fondée beaucoup plus qu'auparavant sur des exemples historiques, exemples empruntés à l'Antiquité et plus particulièrement à l'histoire de Rome. C'est l'insistance également dans les catalogues, dans le catalogue des vertus du prince, l'insistance sur les vertus purement mondaines, et non pas les vertus religieuses, mais les vertus séculières, telles la vertu de libéralité, liberalitas, et celle-ci donc considérée du point de vue de leur efficacité, de leur utilité pour l'exercice du gouvernement. De là, dans ces textes, dans ces miroirs des princes humanistes, cette question décisive, est-il permis d'appliquer au cas spécifique du prince la norme éthique formulée de manière générale pour tout être humain? Le prince ne doit-il pas faire preuve de vertu ou d'une vertu différente essentiellement de celle de ses sujets ou du citoyen ordinaire? Comme l'écrit par exemple l'un des auteurs de ces textes, Francesco Patrizzi, dans son De Regno et Regis Institutione, du royaume et de l'institution du roi, qui date des années 1481-1484, autres sont les vertus du roi, autres celle des particuliers. Quel est donc Premier moment de l'analyse de Gilbert. Deuxième moment, il montre à partir de là quel lien existe entre Machiavel et les humanistes, en dépit de ce qui les sépare. Une conception idéaliste du prince d'un côté, une vision réaliste de la politique comme puissance de l'autre. Voici ce qu'il écrit, notamment le Quattrocento, en concentrant son attention sur les problèmes éthiques soulevés par le gouvernement princier et par conséquent sur la personnalité du prince, est à l'origine d'une perspective qui atteint son point culminant dans l'affirmation de Machiavel selon laquelle, en politique, le facteur vital, déterminant, est la personnalité du prince. Et l'on peut dire que les célèbres chapitres du prince, où Machiavel examine les qualités qui permettent au prince de voir ses actions couronnées de succès, les chapitres donc 15 à 19, et où il s'éloigne à l'extrême de la morale conventionnelle, ne sont que la conséquence du geste suivant. Il a poussé à sa conclusion logique le raisonnement initialement formulé dans les écrits des humanistes. Les vertus et les caractéristiques du prince ne devraient-elles pas être différentes de celles du citoyen privé ? Autres éléments de connexion encore entre Machiavel et les miroirs des princes humanistes, l'accent mis sur les signes extérieurs du pouvoir princier, sur la magnificence, les manifestations de la majestas, et le développement d'une esthétique du pouvoir qui met la règle, le code, l'artifice dans la gestuelle du prince au service de sa domination. Ou encore l'exaltation du rôle du prince en tant que force politique créatrice. Ce qui l'amène à conclure, on peut donc dire que Machiavel a incorporé à son livre certaines idées déjà formulées par les humanistes, bien que la réflexion de ces derniers n'ait en aucune façon précédé la sienne sur l'élément essentiel du réalisme politique. Troisième moment, enfin, de l'analyse de Gilbert. Cette analyse ne vise pas à contester l'originalité du prince de Machiavel, ni à gommer la nouveauté subversive des thèses qu'il défend. Une chose est de dire qu'on ne peut comprendre tout à fait, qu'on ne peut comprendre vraiment le prince sans connaître la littérature des miroirs des princes humanistes à laquelle il se rattache. Une autre est d'affirmer, comme le faisait Alan Gilbert, que sa signification se ramène au contenu de cette littérature humaniste. Telle n'est pas du tout la position de Félix Gilbert, qui souligne l'air de famille commun au livre de Machiavel et à ses traités. Mais s'il souligne cet air de famille commun à l'un et aux autres, c'est pour mieux faire ressortir la tranchante singularité du prince par rapport aux traités humanistes. Machiavel aurait été conscient qu'il abordait des sujets déjà traités auparavant. Il se serait efforcé d'organiser, dit-il, son ouvrage sous la forme littéraire conventionnelle du genre des miroirs des princes, mais ses emprunts ne témoigneraient d'aucune dépendance à l'égard de la tradition, bien au contraire. C'est pour la subvertir en quelque sorte de l'intérieur qu'il aurait, dans une partie du moins de son traité, adopté le cadre formel du genre des miroirs des princes. Les chapitres 15 à 19, déjà évoqués, renvoient en effet très clairement au débat soulevé par le catalogue humaniste des vertus et la thèse de Félix Gilbert, et que Machiavel aurait entrepris de rédiger ces chapitres précisément pour réfuter ce catalogue humaniste des vertus. Je le cite. Les titres des chapitres 16, 17, 18 et 19 sont respectivement « De la libéralité et de la parcimonie »,« De la cruauté et de la bienveillance »,« S'il est mieux d'être aimé que d'être craint », »,« Comment la foi est nécessaire, doit être observée », »,« Comment les princes, ou plutôt, doivent observer leurs paroles »,« Du mépris et de la nécessité de fuir la haine ». Les humanistes, poursuit-il, auraient pu utiliser peu ou prou les mêmes titres dans leur catalogue de vertus. Et si ces derniers traitent du sujet de manière beaucoup plus détaillée, Machiavel a précisément insisté sur les qualités qui apparaissent être les plus importantes pour un prince dans les œuvres des humanistes. Il apparaît indubitable que Machiavel n'a pas simplement réfuté en général l'interprétation idéaliste de la politique, mais qu'à travers ses écrits, il cherchait délibérément à discréditer la conception idéaliste du prince présentée dans les catalogues de vertu. La thèse réaliste du chapitre 15 était destinée à remplacer cette conception erronée. La troisième grande position, enfin, dans ce débat interprétatif sur les rapports entre le prince de Machiavel et la tradition des miroirs des princes, la troisième position sur cette question, qui est finalement la position la plus courante, sans doute, mais aussi, qui, par son caractère abrupt, se dispense souvent des frais de l'analyse, est celle qui consiste à dénier toute pertinence à la question elle-même. Celle-ci, question du rapport entre le prince et la tradition des miroirs, celle-ci serait réglée une fois pour toutes par le fameux premier paragraphe du chapitre 15 dans lequel Machiavel congédie, sans autre forme de procès, toute la tradition philosophico-morale des traités du bon gouvernement au nom du souci d'efficacité. Et où il affirme qu'il est nécessaire à un prince, je le cite, s'il veut se maintenir, d'apprendre à pouvoir ne pas être bon et à en user ou n'en pas user selon la nécessité. La rupture avec l'idéal normatif des miroirs des princes serait ainsi totale et il n'y aurait pas lieu de s'interroger sur les ressemblances éventuelles entre ceux-ci et le prince. Cette lecture s'autorise souvent du privilège de la compréhension philosophique du texte, qui oppose la saisie du sens à la recherche des sources, mais il n'est pas certain que la première, la saisie du sens, puisse pleinement s'effectuer sans le concours de la seconde. La lecture de Félix Gilbert permet, me semble-t-il, de mieux comprendre en quoi Machiavel innove réellement tout en continuant de s'inscrire dans le cadre d'une conception du pouvoir centrée sur la personne du prince. Conception faisant de son habileté, de son audace, de sa capacité à maîtriser ses affects ou ses inclinations, etc., de sa virtu. En un mot, la clé de la réussite politique. Sans doute, Machiavel, en montrant comment le prince, pour assurer son succès, doit savoir user de l'apparence et transgresser les règles de la morale commune, Machiavel ne se contente-t-il pas de creuser à l'extrême la distance introduite par les humanistes entre les vertus civiles et la virtus princière. Il fait voler en éclats le noyau même de l'éthique politique humaniste. Alors que, pour celle-ci, la virtus, la vertu du prince, condition de la maîtrise de la fortune, cette vertu se laissait définir par une série de qualités stables, la fidélité, la clémence, la libéralité, la munificence, etc. Machiavel, qui l'inscrit quant à lui dans une pure dynamique de rapport de force, lui ôte toute réalité substantielle. Il faut, écrit-il, chapitre 18, que le prince ait un esprit disposé à tourner selon ce que les vents de la fortune et les variations des choses lui commandent. Alors, formule tout à fait étonnante, dans un genre des miroirs des princes, attaché à définir les règles invariables de l'action gouvernementale. Il s'agissait jusqu'alors d'offrir au prince une image idéale de lui-même qui lui serve en quelque sorte de point fixe dans le remous des circonstances. Machiavel, lui, rejette le postulat platonicien d'après lequel, pour s'orienter, l'action devrait se conformer à des normes immuables. À supposer que ces normes existent, ce qui n'est pas en question ici, à supposer qu'elles existent, ces normes ne s'appliquent pas au domaine instable, perpétuellement mouvant, de l'action soumis aux aléas du temps, la fortune. La variation du bien, écrit de nouveau Machiavel, toujours dans le chapitre 18, ce passage est très célèbre, la variation du bien dépend du caractère des temps. Être heureux, c'est-à-dire atteint son objectif, réussi, celui dont la façon de procéder répond au caractère du temps. Malheureux, celui donc qui n'atteint pas son objectif et qui échoue dans ses entreprises. Malheureux, celui avec les procédés de qui le temps est en désaccord. De là, l'impossibilité de donner un contenu substantiel à la virtu, puisqu'elle ne maîtrise la fortune que dans la mesure où elle sait s'adapter au changement permanent des choses. Elle n'est rien d'autre, en fait, que cette aptitude même, car, dit Machiavel, toujours dans le même chapitre, si l'on changeait de nature avec le temps et avec les choses, la fortune, alors, ne changerait pas. Il faut donc renverser la thèse traditionnelle. Ce n'est pas en demeurant soi-même, en mettant en œuvre des qualités constantes et stables, que l'on peut résister à la mobilité de la fortune, mais en étant mobile, qu'on peut faire qu'elle ne change pas. La virtu, vidée de sa substance éthique, se dissout donc en une pure multiplicité d'attitudes possibles, et tel est sans doute l'aspect le plus révolutionnaire de la pensée machiavélienne.